On s'excuse de ce petit retard, nous avions une séance privée. Il y a un souci? C'est bon. Donc, des personnes dans l'Assemblée, je pense qu'il y a peut-être des questions, des sujets à évoquer. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée pendant cette demi-heure citoyenne? Pas de réponse, pas de questions. Eh bien, nous allons commencer ce conseil municipal. Merci. Alors, vous avez reçu une convocation en date du 8 novembre. Sur les 27 conseillers en exercice, 24 sont présents ce soir. Nous avons une procuration pour Lauriane Tissot, procuration donnée à Catherine Perret, une procuration de Micheline Carpano donnée à Sylviane Grosset-Jeannin et une procuration de Lionel Bury donnée à Pierrette Morand. Il nous faut désigner un secrétaire de séance qui veut assurer cette fonction. Donc, sachant que Catherine Perret laisse sa place ce soir. Hein. S'il vous plaît, un secrétaire de séance. Bon, alors c'est Lionel Mella. Merci. Donc, la séance est ouverte et je n'ai pas l'heure vraiment précise, mais il est 20h50. Pardon, 19h50, pardon. Donc, l'état civil. Donc, le 11 octobre à Sallanches, Julien Burtin, Julia Burtin. Donc, nous adressons tous nos voeux de bienvenue à ce nouveau-né. Les décès, le 11 octobre à Tours, Jacques Valentin. Donc, nous transmettons toutes nos condoléances aux familles affectées par, à la famille affectée par le départ de Jacques Valentin. Alors, pour votre information, nous avons procédé à si vous voulez maintenant, les collectivités ont la charge d'assurer les PACS et ça y est, c'est un commerce qui marche et je crois que nous sommes à deux ou trois PACS depuis le début du mois de novembre. Alors, nous avons des remerciements de Madame Michèle Morand, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour le présent lors de son départ de Megève. Elle gardera un excellent souvenir des bonnes relations entre le CDI et la commune de Megève, des années au sein du conseil municipal et de sa collaboration à la commission chargée de la révision de la liste électorale. Donc, Michèle Morand travaillait au CDI de l'école Saint-Jean-Baptiste, Collège Saint-Jean-Baptiste. Madame Colette Senva, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour leur délicate attention à l'occasion de son départ du Collège Saint-Jean-Baptiste. La famille Albert, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour les témoignages d'amitié, les marques de sympathie et d'affection exprimées lors du départ de Jean. Monsieur Albert était membre du comité des fêtes et la famille Allard qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour les témoignages de sympathie, votre présence et vos pensées exprimées lors du départ de Jackie. Donc, la première délibération concerne l'approbation du dernier compte rendu. C'est un compte rendu qui concernait la séance du conseil municipal du 17 octobre et qui vous a été transmis le 23 octobre. Avez-vous des observations et des choses à communiquer qui ne conviendraient pas par rapport au compte rendu que vous avez reçu? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La deuxième délibération concerne l'intercommunalité, la CCPMB et l'engagement de la commune dans la démarche de labellisation Sitergie à l'échelle du territoire de la CCPMB. Edith Allard.
Le 27 septembre dernier, le conseil communautaire de la CCPMB a approuvé le lancement d'une démarche de labellisation Sitergie. C'est un label européen qui récompense les collectivités engagées dans une démarche qualité pour leur politique air, énergie, climat. Il utilise une méthode qui permet, en complément, d'encadrer l'élaboration des plans climat, air, énergie, territoriaux, obligation pour la CCPMB. Avec le soutien de l'ADEME, la CCPMB engage une démarche Citergie inédite et exemplaire. Une démarche globale portée par la CCPMB avec un pilotage politique et technique impliquant les 10 communes. Une démarche de labellisation complète réalisée sur la CCPMB. Une démarche de labellisation réalisée sur le patrimoine et les équipements, la politique mobilité et l'organisation interne des 10 communes, ce qui est inédite. Une démarche de label à l'échelle du territoire est une première que l'ADEME souhaite expérimenter avec notre territoire en intégrant la problématique spécifique du tourisme. Pour entrer dans la démarche, la CCPMB doit faire appel aux prestations d'un conseiller Citergie accrédité par l'ADEME. Le coût est pris en charge par la CCPMB avec une participation de l'ADEME. Le conseiller travaillera également auprès des 10 communes. La commune de Megève est invitée à délibérer pour valider son engagement dans la démarche portée par la CCPMB. Contribution aux travaux menés dans le cadre de la démarche Citergie. Désignation d'un élu pour participer à la gouvernance politique comité de pilotage. Désignation d'un technicien pour participer à la gouvernance technique groupe de travail transversal. Participation à la formation de la stratégie et du programme d'action associé. La commune de Megève pourra valoriser son engagement dans la démarche Citergie, utilisation du logo. La plaquette de présentation de Citergie a été envoyée aux membres du conseil municipal au format dématérialisé et reste consultable au secrétariat général. Donc vous êtes invité à autoriser Madame le maire à engager la commune de Megève dans la démarche pilote de labellisation Citergie territoire. Désigner Madame Edith Allard, adjointe au maire, et Madame Sylvie de Bièvre, directrice générale adjointe au service technique, pour participer à la gouvernance de la démarche Citergie. Autoriser Madame le maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y rapportant, et plus généralement à faire le nécessaire.
Bien sûr, au-delà de la labellisation, je pense que c'est important d'adhérer, surtout par rapport aux problèmes qu'on a évoqués dans le cadre de notre conseil privé, ces démarches qu'il faut faire pour obtenir des subventions sur les différents travaux qui sont engagés. Et là, on s'engage dans l'octroi de subventions en travaillant sous la labellisation Citergie.
J'avais oublié de dire en quatrième, de dire que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.
Donc, qui est contre ?
Oui.
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée d'un axe de travail, d'une réalisation concrète qui est envisagée ?
Déjà, avec le copilaire climat, on travaille avec Citergie sur des solutions. Déjà, uniquement à ce niveau-là, et puis au niveau de la commune de Megève, on travaille dans le cadre de Citergie pour le changement de toutes les lampes, tous les néons qui sont remplacés par des LED et le remplacement des ballons fluo également. Donc ça, c'est extrêmement concret.
C'est par exemple le cas dans le parking, j'ai vu, de l'Office du tourisme, c'est ça ?
Déjà, du casino, ça a été fait, hein, dans le cadre du parking du casino.
Excusez-moi. Je voudrais savoir financièrement, ça coûte, c'est combien cette étude ?
On est subventionné.
D'accord. Par l'ADEME.
D'accord.
Donc pour avoir des subventions. Voilà.
Comme c'est un projet pilote, on a des subventions assez importantes de l'ADEME.
Donc je peux repasser au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, donc vous noterez absence de David Serrulier et absence de Jocelyne Coe pour les deux premières les délibérations jusqu'à maintenant. convention d'occupation, alors la quatrième délibération concerne le pôle jury, la convention d'occupation privée. Oh, pardon. Ah oui, pardon, il y a une autre certificat d'économie. Délibération numéro 3, pôle jury, validation des conditions de mobilisation des certificats d'économie d'énergie, dit TEPCV. Laurent Soquet.
Son territoire à énergie positive pour la croissance verte, signé avec l'État le 25 février 2017, prévoit qu'une partie des 2 millions d'euros de subventions attendues viennent indirectement par le biais du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Les CEE permettent de confier des travaux d'économie d'énergie. Le financement vient des distributeurs d'énergie, des obligés, de plus important, EDF, aux plus petits distributeurs de fioul local. L'État leur impose de contribuer aux économies d'énergie selon un objectif validé pour 3 ans. La période 2015-2017 est la troisième de ce système bien rodé connu du grand public sous des appellations diverses, prime éco-énergie, comble à 1 euro, lampe gratuite, qui s'appuie sur ce système. Le système est géré en bourse d'échange. D'un côté, les obligés cherchent à remplir leurs obligations de CEE au meilleur prix. De l'autre, les maîtres d'ouvrage réalisent des travaux qui génèrent les CCE. Ce système, qui finance généralement 3 à 10% des montants des travaux, est très bonifié dans le cadre de la convention TEPCV signée par la CCMB-MB. La communauté de communes peut valoriser par ce système jusqu'à 935 000 euros d'investissement, correspondant à 300 gigawatt-heure d'économie cumulée. Elle peut porter elle-même des projets ou en faire bénéficier les collectivités incluses dans son périmètre ou ses ménages. Le choix de se concentrer sur les travaux des communes est retenu et un recensement des travaux éligibles réalisé. La commune s'engage à réaliser les travaux listés avant le 31 décembre 2018. Elle s'engage également à fournir à la CCPMB les pièces justificatives nécessaires, en particulier les devis et factures détaillées sur les datations de fin de travaux. Une convention sera conclue avec un obligé pour permettre de disposer d'un prix d'achat fixe sur une période de 3 ans. La communauté de communes reversera aux communes 80% du montant des travaux validés par le registre national. Le solde sera consacré aux frais liés au montage des dossiers, aux frais de gestion et renforcera les actions sélectionnées pour atteindre un air de qualité dans la vallée. En dehors des travaux listés, la commune n'est pas tenue par exclusivité de valoriser des certificats d'économie d'énergie. Elle pourra continuer à les valoriser directement. Le conseil municipal est invité à valider le principe de déléguer à la CCPMB le dépôt des CEE correspondant aux travaux d'économie d'énergie listés, valider le principe de répartition des recettes correspondantes entre les communes et la communauté de communes, incluant la récupération de 80% du montant des travaux validé par le registre national, autoriser Madame le maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y apportant, et plus généralement à faire le nécessaire, dire que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois, à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. On est évidemment toujours dans la continuité de pistes de recherche pour être subventionné dans le cadre de subventions pour faire des économies d'énergie sur des bâtiments.
Alors, juste une question. Dans le premier paragraphe, on parle une partie des 2 millions de subventions attendues et après on parle jusqu'à 935 000. Alors je ne comprends pas bien les deux chiffres.
C'est quand Ségolène Royal
était venue
l'hiver dernier, c'est ça, et qu'elle s'est pour apporter justement pour répondre aux inquiétudes dans le cadre de la vallée de l'Arve pour la pollution et qui s'est engagée à déployer des moyens justement pour chercher des pistes d'économie et surtout pour respecter l'environnement.
Alors aurions-nous dû rédiger qu'une partie des 2 millions de subventions espérées?
Mais c'est qu'elles ont été réparties. Elles ont été réparties différemment. Il y a une partie qui est centrée sur les certificats d'économie d'énergie TEPCV, et puis l'autre, une partie de subvention qui est destinée à d'autres. Donc d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité cette fois-ci, hein, c'est ça? La délibération numéro 4 concerne le pôle jury et une convention d'occupation privative du domaine public, Infracos, autorisation de signer, Laurence Hoquet.
En date du 2 octobre 2004, la commune de Megève et SFR ont conclu une convention portant mise à disposition d'emplacements au profit de SFR dans les emprises du terrain 6-721 route nationale à Megève 74-120 sur la parcelle cadastrée numéro 65, section AC, afin d'y accueillir un local technique composant d'une station radioélectrique. Parallèlement, un contrat connexe a été conclu entre SFR et France Télécom permettant à SFR d'installer des équipements techniques, antennes, faisceaux hertziens, chemin de câble, sur le pylône, propriété de France Télécom. Ce contrat a pris effet à compter du 1er novembre 2008 pour une durée de 9 ans, renouvelable tacitement. Infraco, c'est une société détenue par Bouygues Télécom et la Société française de radiotéléphonie, SFR. Elle a notamment pour objet social la gestion du patrimoine de ces deux sociétés sur une partie du territoire français. Infracos est donc détentrice des droits d'occupation des sites permettant d'établir et d'exploiter des réseaux de communication électronique. Souhaitant conclure une nouvelle convention entre elles, la commune et la société Infracos se sont rapprochées afin de conclure la convention présentée. La convention porte sur les armoires techniques et les câbles venant se raccorder aux équipements techniques installés sur les biens d'Orange. Elle annule et remplace de plein droit, à compter de sa date de prise d'effet, la convention en date du 2 octobre 2004, conclue entre la commune de Megève et SFR. La convention est consentie pour une durée de 9 ans, qui prendra effet à compter du premier jour du mois suivant à sa date de signature. Au-delà de ce terme, elle est prorogée tacitement par période successive de 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, 18 mois au moins avant la date d'échéance de la période au cours par lettre commandée avec accusé de réception. La convention est acceptée moyennant une redevance annuelle de 1921 euros qui prendra effet à compter de la date de prise d'effet de la convention, soit le premier jour du mois suivant à sa signature. La redevance sera augmentée annuellement de 2%. Donc en annexe, vous avez la convention d'occupation du privatif du domaine public. Donc, proposition, le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention d'occupation privative du domaine public telle qu'annexée à la présente délibération. Autoriser Madame le maire à signer tous les documents afférents à l'exécution de cet avenant. Donc, le lieu, vous avez tous deviné que c'était derrière le club des sports. L'ancien site France Télécom, absolument.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 5 concerne la sécurité des espaces publics, l'occupation privative du domaine public non constitutif de droit réel, instauration d'une charte inhérente aux agencements autorisés. Afin de préserver la sûreté, la sécurité, l'accessibilité, la qualité paysagère et patrimoniale ou la dynamique commerciale de certains périmètres, des prescriptions d'emprise précaires sur l'espace public peuvent être définies de façon spécifique par l'autorité administrative sous forme d'un acte de police de ledger data. Lorsque l'occupation du domaine public n'est pas incompatible avec la destination du bien, l'occupation constitue un mode de jouissance exceptionnel procure à celui qui possède une autorisation d'occupation le droit de disposer d'un bien du domaine public d'une manière privative, à la différence de la généralité des habitants. Nonobstant, ces autorisations revêtent un caractère personnel, précaire, temporaire et révocable. En effet, le domaine public communal obéit à un régime très protecteur. Le Code général de la propriété des personnes publiques insiste sur 3 attributs du domaine public. Celui-ci est insaisissable, imprescriptible et inaniélable. Considérant que l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, il importe de définir une redevance réglementée en tenant compte de la localisation des terrasses en zone piétonne, hors zone piétonne, sur zone soumise à un régime de stationnement particulier. Du type de terrasse, ouverte, contre-terrasse sur stationnement, contre-terrasse simple ou déportée, des agencements utilisés, agencements de sol séparatifs temporaires, de l'emprise au sol considérée, superficie en mètres carrés, de la durée d'utilisation en saison, c'est automne-hiver ou et printemps-été, de l'engagement des exploitants à maintenir une activité commerciale sur une durée définie par l'autorité administrative, 10 mois dans l'année. Le caractère onéreux de l'occupation du domaine public se justifie non seulement par un souci de gestion réfléchie du patrimoine communal, mais également par l'atteinte tolérée au droit d'accès de tous les usagers au domaine public. Dès lors, il convient d'admettre que la redevance constitue une sorte de compensation des avantages qui sont procurés au bénéfice d'une autorisation d'occupation. Donc, vous avez sur la page 32 les modalités des redevances qui concernent l'occupation du domaine public non constitutif de droit réel, en ce qui concerne, dans un premier paragraphe, les terrasses, présentoirs et tourniquets. Donc, vous avez le prix au mètre carré. Dans le deuxième alinéa, c'est la création de tarifs nouveaux qui concernent des terrasses avec aménagement de terrasses au moyen d'un plancher. Et puis, une petite amélioration qui a été apportée, c'est également des aménagements floraux. Donc, vous avez la liste des différents prix sur la page. L'encaissement de la dite redevance sera géré à travers de l'acte de police avec délivrance d'un titre de paiement par les services compétents. Donc, en établissant une charte inhérente aux agencements autorisés, la commune souhaite avant tout maintenir l'harmonie, l'élégance et l'identité qui font le charme et la notoriété de notre village. La charte est un document d'orientation visant à favoriser le maintien de la qualité de vie environnementale et l'attractivité commerciale sur le domaine public. Elle constitue un outil pédagogique d'agencement des terrasses au service des commerçants. Cette démarche est basée sur une volonté d'harmonisation et d'intégration esthétique des terrasses en un lieu considéré. Elle réside dans le souhait de faire cohabiter les différents utilisateurs de l'espace public. Reflet d'une qualité de service offert aux clients et de l'image de notre commune, celle-ci mérite une attention particulière pour donner un sens à l'espace en préservant l'environnement esthétique. Le document annexé vous présente un ensemble des prescriptions techniques, qualitatives et réglementaires en matière d'occupation privative du domaine public non constitutive du droit réel. La mise en conformité aux présentes dispositions est définie comme suit. S'inédit pour toute nouvelle terrasse installée sur le domaine public et au plus tard pour le 1er juillet 2018 pour les exploitants ayant des terrasses existantes. Celle-ci est applicable sur l'ensemble du domaine public de la commune de Megève. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adopter la proposition qui lui est faite concernant l'instauration d'une charte inhérente aux agencements autorisés sur le domaine public et les tarifs relatifs à l'occupation privative du domaine public dans ce cadre. Donc, en annexe, vous avez la charte de cette occupation par laquelle on a voulu gérer l'occupation privative du domaine public, qui, je le rappelle, n'est pas constitutive de droit privé. Donc, cette charte, c'est une convention qui va nous permettre, comme on l'a répété à plusieurs reprises, d'embellir et d'harmoniser l'accueil et l'occupation du domaine public dans le centre du village. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est que on se dit que le monde attire le monde et qu'il fallait que on puisse continuer à tirer une certaine dynamique à l'intérieur du centre du village. Et donc, cette charte, elle est en marche et en avant pour apporter, je dirais, un soutien à l'activité économique et un soutien aussi à l'activité à l'année, parce que dans l'élaboration de cette charte, il y a possibilité de pouvoir installer des terrasses à l'année, mais ceci, les terrasses planchées telles qu'on les a autorisées ne seront autorisées que si le commerçant s'engage à rester ouvert 10 mois dans l'année. Donc cette démarche-là aussi, elle est en phase avec une dynamique que l'on recherche pour essayer de ramener de l'économie, de l'activité et de l'animation au centre du village. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait... Laurent, est-ce que tu te rappelles des points parce que je voudrais boire, pour évoquer ce qui a été autorisé, plus ou moins. Alors, laissez-moi boire et je reprends. Ouais. Donc, en gros, ce qu'on a interdit, c'est les bâches. On a autorisé les planchers avec des séparations séparatives avec en bois, avec une partie basse en bois et la partie supérieure pour couper le vent tel que c'était pratiqué avec les bâches, c'est un plexi transparent. Donc les commerçants qui ne s'engagent pas à rester ouverts 10 mois dans l'année, ces terrasses, ils pourront les installer du 15 octobre au 15 avril. Voilà. Donc après, le commerçant s'engage à démonter la structure et l'été, la terrasse, elle est sur le pavé.
Également, il n'y a pas de système de fermeture.
Pas de système de fermeture, oui. Alors, donc, la hauteur maximum entre le plancher, le soubassement qui sert de paravent et la partie du plexi ne doivent pas dépasser 1,80 m. Et en fait, la partie, donc ces terrasses bois, ne sont autorisées que le long des façades qui intègrent la porte d'entrée principale du commerce. Donc la couverture ne peut être faite que par des bâches, des toiles, store. C'est pas de fermeture. Il y a des ouvertures qui sont tolérées par rapport à la capacité d'accueil de la terrasse. Donc entre 1 et 19 personnes, c'est une largeur de 90 cm. Entre 20 et 49 personnes, c'est 1,40 m. Et cette ouverture, elle doit rester libre et elle ne doit pas être occultée.
Également, il n'y aura pas de terrasse couverte déportée.
Il n'y aura pas de terrasse plancher déportée.
Plancher déportée.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit attenante à la façade principale. Après, on a souhaité y apporter une nouveauté dans le cadre de l'harmonisation et du fleurissement de la... Donc c'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait des tarifs sur les fleurs. Donc on a, c'est une option hein, que le commerçant peut prendre ou ne pas prendre. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de pouvoir profiter du fleurissement que fait la commune. Donc avec des prix qui sont dans le... Je ne les ai pas en tête là. C'est 77 €, donc par mètre carré occupé. Donc le commerçant a la fourniture de son bac et donc l'arrosage et l'entretien des plantes et le renouvellement des plantes par les services de la commune. Donc ça, c'est à son choix. Hein. C'est pour les commerçants qui souhaitent se garantir d'un florissement en adéquation avec celui qui est fait de la collectivité. Mais c'est au choix et rien n'est imposé.
Et effectivement, on peut quand même se féliciter du travail qui a été accompli, parce que ce n'est pas un travail qui a été évident. Ça fait des années que les maires successifs sont confrontés au problème des terrasses, avec des demandes qui sont toujours des demandes bien évidemment individuelles, puisque ça concerne toujours un commerce. Et le commerce qui saisit la collectivité pour une demande de terrasse, bien évidemment, il a toujours une explication plus importante que celle du voisin. La demande, Madame le maire a sollicité effectivement certains d'entre nous et certains fonctionnaires pour que un groupe de travail soit formé il y a plusieurs mois. La plupart des commerçants concernés pour l'implantation de terrasses sur le domaine public ont été rencontrés. Bien évidemment, une synthèse a été nécessaire par rapport à l'existant et par rapport aussi aux demandes de chacun, savoir si ça pouvait rentrer dans le cadre que on s'était plus ou moins fixé, tel que nous on imaginait les terrasses. Et effectivement, avoir réussi à construire cette charte, je pense que pour le devenir, c'est bien, parce qu'au moins on a un document de travail pour les espaces publics. Ça évitera pour le futur des discussions qui sont des fois difficiles hein, à porter, où on va dire, bah, écoutez, il y a un document existant, maintenant, ça sera une bonne référence pour les prochaines demandes. Voilà, donc je pense que pour le développement économique du centre du village, c'est un pas important qui a été franchi parce que jusqu'à aujourd'hui... ce qui était autorisé à l'un, on pouvait l'interdire à d'autres. Et je je pense qu'il y aura une certaine équité maintenant dans le traitement des dossiers et des demandes.
Oui.
Je voudrais juste poser deux questions, enfin quelques questions, la Sylviane Grosset. Donc effectivement, ça a le mérite de mettre les choses à plat et de traiter les gens d'une façon, je vais dire, juste. Je vois rien en ce qui concerne le chauffage et la sonorisation. J'ai pas su le lire.
Si, alors la sonorisation, il y a...
Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi.
Et les nuisances sonores et chauffage...
Le chauffage, il est bien stipulé, page 49. Matériel de chauffage doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur. Ceci doit s'intégrer de façon harmonieuse dans le projet global. Et il y a trois types d'appareils de chauffage qui sont listés dedans. Page 49. Sonorisation, on a la même chose. C'est l'article 7.
Oui, musique d'ambiance.
Donc, il y a toutes les trois types de diffusion de musique qui sont autorisés, avec les horaires pour lesquels ils sont autorisés à être diffusés.
C'est quelque chose. Enfin, ce sont deux points qui sont très controversés. Les gens ne comprennent pas qu'on chauffe alors qu'on a tant de mal à avoir la neige. Enfin, je donne des choses comme ça. Hein, mais bon, bah, si c'est encadré, s'il n'y a pas d'excès. Bon, c'est vrai aussi que les goûts sont très partagés en matière de musique. Mais bon, là aussi, hein, il ne faut pas que ce soit.
Alors, je pense
qu'on en profite jusqu'à l'au bout de.
Il faut bien relire. Je pense que vous pouvez le relire. Il y a trois types de musique. Hein. Attention, c'est la musique d'ambiance. Donc la musique d'ambiance, c'est une musique qui est diffusée sur une terrasse extérieure. Fond sonore discret permettant de tenir une discussion sans élever la voix. Donc celle-ci, elle est autorisée de 17h à 22h. On est bien d'accord. Là, après, il y a illustration musicale. C'est diffusion de musique reflétant l'identité des lieux à l'intérieur de l'établissement, quasiment non perceptible de la voix publique. C'est de 11h à 22h.
Vu l'installation de micros à l'extérieur. Hein.
Oui, mais je sais. Donc j'ai fait une certaine police en sortant de cette mairie le soir tardivement, en rentrant personnellement dans certains établissements pour faire baisser la musique, parce que c'est vrai qu'il y a le respect aussi. C'est vrai qu'on a un centre-ville, il faut l'animer, mais il faut quand même aussi respecter... On vend du sommeil, on est quand même une station touristique et on a des gens qui viennent ici pour se reposer. Donc il faut trouver le bon compromis entre la vie nocturne et la vie de nos résidents touristiques. Et puis donc après, il y a celle, on est bien d'accord, l'animation musicale éphémère audible de la voix publique, qui est une animation organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, faisant appel à de la diffusion de musique perceptible de la voix publique. Ça, c'est des soirées à thème, et donc celles-ci, elles font l'objet d'une demande, d'un arrêté, et elles sont autorisées jusqu'à 23h.
Deux points écrits, là, que je n'ai pas compris. Le mètre carré pour les terrasses et contre-terrasses sur stationnement de rodateurs calcule au prorata, ça se calcule comment, ça?
Sur le nombre de places qui sont utilisées.
Celui qui a la terrasse, il ne paye pas, quand même pas la... Comme s'il a garé une voiture pendant 3 mois.
Non, sinon il ne prendrait pas.
Oui, non, mais je comprends bien.
C'est au prorata de l'occupation. Je pense.
On prend sur le domaine public, sur le calcul du mètre public, pas sur le stationnement.
Oui, pas sur le stationnement, et c'est sur le prorata de l'occupation.
Du domaine public.
D'accord. Et juste, je pense que c'est une faute de frappe, hein, mais ça c'est rien du tout. Avant ma dernière question, remise de 0,5% ou 5%? Enfin, arithmétiquement, c'est 5%.
C'est 5%.
C'est 5%, hein, oui. C'est pas 0,5, d'accord. Donc, non, parce qu'on pourrait imaginer qu'il manque, en page 33, on pourrait imaginer qu'il manque une virgule, mais non, il ne manque pas, c'est bien 5%.
Page combien? Ah oui, c'est le zéro qui est en trop, oui.
Oui, mais ce n'est pas un problème, hein. il ne se lit pas normalement. Mais bon. Alors, je vais prendre un cas particulier. On est là, ce soir, on parle bien de domaine public.
Domaine public.
Ah, parce qu'il y a des terrasses qui sont chez des privés, voilà.
Qui dedans, c'est le droit de l'urbanisme.
Là, dans ce cas-là, c'est le droit d'urbanisme. Alors, je cite, hein, puisqu'on est en séance quand même de travail. Par exemple, celle de la résidence qui est déportée sur une partie de terrain qui est à la remontée mécanique. C'est plus, voilà, hein, sauf erreur de cadastre. Et là, donc là, nous, on n'intervient pas. Mais il y en a un petit morceau sur la commune, quand même.
Un petit morceau sur la commune, oui.
Non, donc, là, si, cadastralement. Mais bon, donc là, ça joue. Ça joue pas. Si, si, elle est fermée, oui. Enfin, l'hiver, je sais pas. Enfin, non, mais je veux dire, là, par exemple, on est dans un cas majoritairement dans le privé, voilà, qu'on n'intervient pas.
C'est urbaniste, c'est privé. Vous avez d'autres questions ? Il n'y a pas de questions ? D'autres, là, vous avez évoqué tout ce que vous... Bon, écoutez. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention, Annabelle Baccara. Donc la délibération est prise avec une abstention. La délibération numéro 6 concerne le pôle marché et achat public, restructuration et extension du palais des sports et des congrès de Megève, marché de travaux, lot numéro 10, plomberie sanitaire, et numéro 21, chauffage, ventilation, climatisation, protocole transactionnel, approbation. Ok. Excusez-moi.
Dans le cadre des travaux de restructuration du Palais des Sports et des congrès de Megève, il a été conclu les marchés numéros 2014-022 et 2014-023 avec la société avec la SAS Pierre Streff 621 de Bertholone à Saint-Martin, Le Vinou, dans l'Isère. Le premier marché cité était dénommé lot numéro 10, plomberie sanitaire, et le second, lot numéro 21, chauffage, ventilation, climatisation. Ces deux contrats contenaient une tranche ferme et plusieurs tranches conditionnelles. Le montant des travaux notifiés à l'entreprise était de 545 996 euros hors taxes pour le lot numéro 10 et 2 216 096 euros hors taxes pour le lot numéro 21. En date du 17 février 2015, le conseil municipal ayant décidé d'apporter des modifications au programme initial de travaux, la totalité des prestations contenues dans ces marchés n'était plus en adéquation avec la nouvelle utilisation de l'espace séminaire et congrès de sa localisation envisagée. L'inversion avec le gymnase offrait de nouvelles perspectives qui devaient être intégrées dans le nouveau programme de l'opération. Ainsi, les membres de l'Assemblée délibérante ont décidé de ne pas exécuter une partie des travaux notifiés à l'entreprise. Ces prestations sont rapportées aux tranches conditionnelles affermies. Pour la société Pierre Streff, elle s'élevait pour les lots numéro 10 et numéro 21 respectivement à 153 902 euros et 389 609 euros hors taxes. L'entreprise ayant subi une diminution supérieure à 5% du montant contractuel, cette dernière était en droit d'être indemnisée du préjudice qu'elle avait subi du fait de cette diminution. En pareil cas, le titulaire a droit en outre à être indemnisé de la part des frais et investissements engagés pour le marché est strictement nécessaire à son exécution qu'il n'aurait pas été prise en compte, dans le montant des prestations payées. Après l'achèvement des travaux, l'entreprise a présenté un mémoire en réclamation lors de l'établissement de son décompte final pour chacun des deux lots. Le maître d'œuvre a validé les deux projets de décompte, général incluant ces mémoires en réclamation. La SAS Pierre Streff faisait valoir son droit à l'indemnité et évaluait cette compensation financière à 30 171,85 euros pour le lot numéro 10 et 69 232,14 euros pour le lot numéro 21. Après négociation, les parties se sont rapprochées afin de transiger sur une indemnisation, respectivement de 23 340,19 euros et 50 177,87 euros. Un protocole transactionnel sera signé entre les deux parties par l'entreprise. La signature de ce document permettra d'éviter un contentieux indemnitaire pouvant s'avérer long et coûteux. Donc en annexe, vous avez le protocole transactionnel. Le conseil municipal est invité à approuver le protocole transactionnel à conclure avec la SAS Pierre Streff concernant les lots numéro 10, plomberie sanitaire, et numéro 21, chauffage, ventilation, climatisation, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel, ainsi tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. Accepter le versement par la commune à titre d'indemnisation de la somme de 70 518,06 € au profit de la SAS Pierre Streff. Prévoir les crédits correspondants sur son budget au chapitre 011.
Pardon. Donc, ça, c'est le protocole transactionnel qu'on a avec les entreprises par rapport à la résiliation des marchés que l'on a fait avec toutes les entreprises. Donc, il faut négocier. Ce sont des entreprises qui ont... aujourd'hui, ils avaient justifié des études, des achats de matériaux qu'ils avaient groupés par rapport à des tranches fermes et de la tranche conditionnelle et qui ne seront pas utilisées dans la tranche conditionnelle. Donc, on négocie avec ces entreprises et voilà le résultat de la transaction qui est d'indemnisation qui est à donner à l'entreprise de Pierre Streff. Donc, dans le cadre des indemnisations transactionnelles, il nous en reste encore une, c'est celle avec le macro-lot. Il sera plus importante. Voilà. Donc des contres.
Juste, moi, je voudrais quand même remercier le service marché public qui fait un travail formidable en termes de suivi, justement, pour ces protocoles transactionnels, parce qu'ils sont très vigilants et on ne peut que les en remercier.
Donc il y a des contres, des abstentions. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Avant de reprendre la délibération numéro 7, j'ai tout à l'heure dans la conversation avec les terrasses, j'ai oublié de remercier la commission qui s'est investie sur le travail des terrasses et puis les agents aussi qui ont travaillé et qui ont fait, toutes les personnes qui se sont associées à l'élaboration de ce projet qui, je pense, va dans l'intérêt du centre et l'harmonisation du centre de Megève. Le pôle patrimoine bâti, donc c'est la délibération numéro 7, pôle patrimoine bâti et travaux régis, c'est la rénovation de la toiture des écoles Henri-Jacques Lemême, autorisation donnée au maire de déposer un dossier de déclaration préalable. Laurence Oquet.
La commune de Megève dispose d'une structure destinée à l'accueil des enfants jusqu'à l'âge de 11 ans. Cet équipement se situe au 39 chemin des écoles. Dans le but de résoudre les désordres observés sur la couverture et d'améliorer le confort ainsi que la sécurité des occupants, il est prévu de procéder aux travaux suivants. Remplacement de la couverture existante et remise aux normes vis-à-vis du climat de montagne. Isolation de la toiture. Reprise des descentes d'eau pluviale. Ces travaux seront effectués pendant la période estivale afin de limiter les nuisances et l'impact du chantier sur les enfants et éducateurs. Le projet ne prévoit pas de création ou d'aménagement de nouveaux espaces. Ainsi, la procédure utilisée sera une déclaration préalable. Afin de permettre le dépôt de l'instruction du dossier de la déclaration préalable, il est indispensable que le maire soit autorisé par le conseil municipal à déposer le dossier de déclaration préalable. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à déposer au nom de la commune le dossier de rénovation de la toiture des écoles Henri-Jacques Lemême.
Je pense que aussi dans le cadre de ce dossier, il y aura une démarche de recherche de subventions, cette fois-ci dans le cadre des projets favorisant la transition énergétique.
Voilà. Depuis 2 ans maintenant, on met des petites pièces pour boucher les fuites. Donc, il devenait urgent de refaire cette toiture. On peut envisager aussi l'isolation des combles, mais là, il n'y a pas un grand intérêt puisqu'il y a, il y a une dalle.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 8, c'est la Direction générale de l'aménagement et de l'environnement. Une convention d'amodiation de places de stationnement au parking du casino. Autorisation de signer. Laurence Oquet.
La commune de Megève est propriétaire du parking du casino qu'elle exploite directement dans le cadre de la régie municipale des parcs de stationnement. Dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel du cœur et face à la difficulté de pouvoir... Pour pourvoir au nombre de places de parking nécessaires aux travaux de l'établissement, il est proposé d'amodier 4 places de stationnement dans le parking du casino pour une durée de 15 ans, pour un montant de 25 000 € hors taxes par place. Les places référencées par les numéros 291, 292, 293 et 294 ne seront pas cloisonnées. Afin de formaliser cette opération, un projet de convention d'amodiation est proposé à l'approbation du conseil municipal. Donc en annexe, vous avez la convention d'amodiation des places de stationnement au parking du casino. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à signer la convention d'amodiation de places de stationnement au parking du casino, d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à l'exposition de ces conventions et autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette convention.
Oui, des questions ?
Oui, personnellement, je suis défavorable à ce système d'amodiation pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va tout à fait dans le sens dans l'intérêt de l'amodiataire, dans la mesure où la commune propriétaire va donner des places, enfin va vendre sur une portion de temps des places qui ne pourront pas être utilisées, on ne pourra pas faire le fameux entre guillemets surbooking de parking, puisqu'elles seront bien, elles sont bien listées, elles ont un numéro, etc. Et peut-être y aura-t-il un système qui dissuadera l'utilisateur normal du parking d'y stationner. Alors, quand il y a une entrée séparée, qu'il y a un espace séparé qui a une vocation justement pour la modiation, là, moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que ça permet, si un investissement, ça permet de faire payer, on va dire, d'avance un client dans un parking. Mais dans ce cas, je trouve que qu'il vaut mieux faire carrément des abonnements. Alors je prends l'exemple du parking de l'Office du tourisme, où il y a plusieurs hôtels qui je ne sais pas de quelle manière, enfin en tout cas, ont un certain nombre d'abonnements. Je pense à l'hôtel du Mont-Blanc, je pense également à l'hôtel où il y a le Saint-Georges. Et là, on s'aperçoit de quoi ? C'est que les places qui sont utilisées peuvent être utilisées par d'autres personnes. C'est-à-dire que ce sont des places qui peuvent être occupées d'une façon beaucoup plus optimale. D'autant plus que la modiation, donc c'est un abonnement un petit peu moins cher. Alors si on prend l'exemple de ce qui est proposé là, les places seront affectées, elles ne pourront pas être utilisées. Ben, elles peuvent l'être, c'est marqué dans le... Non, pas cloisonné, il peut y avoir des arceaux. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas y aller. Et je dirais plus, c'est que... quelquefois, étant pressé, quelqu'un qui a la possibilité de rentrer parce qu'il a, je sais pas, une carte ou je ne sais quoi, qui peut être par exemple pressé, va pas forcément aller se mettre à l'emplacement qui lui est dévolu. D'ailleurs, vous l'avez prévu puisque vous l'avez indiqué dans le document qui suit. Je lis. Il sera tenu d'utiliser le ou les emplacements réservés à l'exclusion de toute autre place du parking. Expliquez-moi comment ça se gère, ça. Enfin, donc, pour vous dire, je suis pour des abonnements longue durée, mais pas pour la modiation quand on n'a pas d'entrée séparée et qu'on ne peut pas utiliser les places.
Sylviane, le prix d'abonnement...
Je suis pour le maintien de l'hôtellerie à Megève, ça c'est clair.
Aussi, déjà.
Donc c'est la solution adaptée pour pouvoir permettre à l'hôtel Le Cœur de Megève de pouvoir faire des travaux. Et des travaux d'agrandissement de l'hôtel, et garder un hôtel au centre du village. C'est surtout là-dessus qu'on a vu.
Je vous entends, mais je dis simplement, il ne faudrait pas que les places soient dédiées.
C'est un hôtel. De toutes les façons, il prend des places d'abonnement pour ses clients tous les ans. Par rapport au prix de la modiation qui est proposée là par Pias, on est à 25 000 euros hors taxe sur une période de 15 ans par place. Ça fait un total de 100 000 euros pour 4 places. En euros constants, au tarif d'aujourd'hui, à 860 euros l'abonnement, de 900 euros l'abonnement, on arrive à un total sur la même période pour 4 places en location, donc à l'année, à 51 600 euros, soit la moitié de ce qui est proposé dans la séance du conseil. On est à 100 000 euros hors taxe pour 4 places, d'accord, sur 15 ans. 4 places louées sur 15 ans au tarif d'aujourd'hui, ça fait 51 600 euros. Ben, il n'y a pas photo.
Moi, je trouve que tout le monde y trouve son compte. La régie, les parcs, ils trouvent tout à fait son compte.
L'argument financier, excuse-moi Laurent, l'argument financier avancé, il ne tient pas. Deuxièmement, on sait très bien pourquoi on l'a fait. C'est pour permettre la réalisation des travaux. Je te rejoins 100% là-dessus. Et troisièmement, le cœur de Megève louait toujours des places de stationnement. Alors oui, effectivement, ils ne vont peut-être pas en louer 4 de plus, puisqu'ils vont payer ces 4 places. Ils vont faire bénéficier leurs clients, justement, des 4 places qui rentrent dans ce contrat.
Et c'est simplement, ce qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est que l'aspect réglementaire dans la dépose d'un permis de construire ne prévoit pas, en tout cas, de location, ou en tout cas d'abonnement. Donc il fallait trouver un moyen de soutenir l'activité économique, comme l'a dit très justement Laurent. Et c'est pour ça que c'est le seul dispositif. Alors, en revanche, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que pour ça vous est présenté en conseil municipal, c'est que c'est pas non plus une règle qui s'applique. C'est simplement pour vous permettre d'apprécier aussi aujourd'hui ces 4 places, c'est-à-dire 4 chambres supplémentaires. En gros, ça va se faire au cas par cas, de manière à ce que vous puissiez apprécier, je le redis, la destination, en tout cas, de la partie rénovée de l'hôtellerie du cœur de Megève ou d'un autre hôtel, le cas échéant.
Sauf erreur, on a délibéré de la même manière quasiment, mais en qualifiant les choses autrement, pour un ancien hôtel qui s'est transformé en appartement.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que dans le nouveau PLU, il y a un dispositif qui prévoit, parce qu'on a deux solutions. Soit on accepte des friches hôtelières, je vais vous en donner deux exemples, l'Estélan et le Soleil d'Or. Soit on les accepte en se disant, ça restera dans le paysage de Megève. Soit on trouve un dispositif, et on en a trouvé un, qui consiste à dire, quand on n'a pas de solution, on acceptera que le changement de destination, dans certains cas, sauf si vraiment on estime qu'il y a une nécessité économique à Megève, on refusera le changement de destination, mais que, exemple, l'hôtel de l'Estélan, on sait que sa viabilité est très incertaine, pour ne pas dire n'est pas possible dans sa dimension. Donc moi, je préfère voir un changement de destination, voir ce bâtiment se transformer, plutôt qu'avoir une ruine à Megève pendant encore plusieurs décennies.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est pour ça que je ne suis pas contre le fait qu'il n'occupe pas des places de stationnement. Mais je dis simplement que quand il y a une entrée séparée et quand on voit par exemple ce qui a été fait au parking de l'office du tourisme, là c'est facile. Les gens rentrent, sortent. En fait, je crois qu'il y a pas mal de collectivités qui s'arrangent quand elles investissent dans un parking d'en réserver un niveau, par exemple, pour justement les vendre, entre guillemets, faire une amodiation à des privés sur une période limitée.
Oui,
et là, ça se gère très très bien.
Oui, mais sauf qu'il faut l'anticiper et le prévoir en amont. Et que là, aujourd'hui, techniquement, on n'a pas la possibilité de réserver une partie du parking du casino pour de l'amodiation et une parking pour un parking public.
Alors, l'autre question j'ai deux questions qui suivent. Donc, à un moment donné, il avait été dit autour de cette table qu'il y aurait des travaux assez conséquents, ou peut-être carrément la privatisation de ce parking et la construction d'un autre parking neuf ailleurs. J'ai bien entendu ça ? En début de mandat ?
Oula !
J'ai mal entendu ? D'accord. Donc, on a déjà fait des travaux d'amélioration, de structure ? Est-ce qu'il y a d'autres travaux d'amélioration ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand on facilite les choses dans un autre parking, j'imagine, et ça c'est normal.
Au même titre que les abonnés, on leur donne la possibilité, quand on a réalisé les travaux du parking du casino, on avait donné la possibilité aux abonnés de se stationner à l'office du tourisme ou au village. Ce qui sera la même règle. Voilà. Et je pense que le casino, cette fois-ci, on va être quand même, j'espère, au moins tranquille 10 ans, vu les travaux qu'on y a réalisés.
Qui ont fait le plus grand bien à ce parking. Donc voilà. Un amodiataire, il participe aux frais de... comme un copropriétaire, il participe aux frais de fonctionnement, par exemple
les... Non,
pas du tout. C'est pour savoir s'il y avait des frais de copropriété quelque part. Non. Mais voilà, ça m'avait éclairé.
Après, il faudrait établir un règlement de copropriété et ça deviendrait compliqué, je pense.
D'autres questions ?
Un hôtel qui reste ouvert toute l'année, quand même. Si on veut le comparer, vous le compariez aux autres hôtels, vous dire que cet hôtel, c'est le seul hôtel du centre-ville qui fait l'effort de rester ouvert toute l'année. Donc il y a quand même un intérêt.
Bon, on va, s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, un contre, Sylviane Grosset. Deux. Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée avec deux contre. La délibération numéro 9 concerne les pôles finances et programmation, pertes sur créances irrécouvrables, créances éteintes sur l'exercice 2016. Frédéric Goujat.
Monsieur le trésorier principal nous informe que, par délibération du 6 septembre 2017, le tribunal a mis fin à la procédure de liquidation judiciaire de la SRL Olivier Martin par décision de clôture pour insuffisance d'actifs. Il convient, pour régulariser la situation budgétaire du budget principal de la commune, et d'admettre les titres de recettes qui n'ont pas été retrouvés en créances éteintes. Donc vous avez les deux lignes concernées par ces créances pour un montant de 27 617 euros, à savoir en principal des loyers et une facture de consommation de gaz. La dépense sera imputée au compte 6542 créances éteintes du budget de la commune de Megève sur son exercice 2017. Je vous prie de trouver en annexe l'état fourni par la trésorerie principale de Sallanches. Le conseil municipal est invité à arrêter le montant total des pertes sur créances irrécouvrables, créances éteintes, à la somme de 25 717,22 euros. Donner pouvoir à Madame le maire ou son représentant pour effectuer les formalités nécessaires.
Donc, vous avez pu voir que sur le montant de la dette globale de 34 658,43, il y a eu quand même un recouvrement d'EDF qui nous est parvenu, mais le reste est perdu. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 10 concerne pôle finance et programmation, le mandatement des dépenses d'investissement pour l'exercice 2018 sur le budget de la ville. Frédéric Goujat.
Vu les dispositions de cet article, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant de l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions suivantes. Donc vous avez dans le tableau dessous l'intégralité des travaux et des frais qui restent à payer, qui étaient sur les crédits ouverts en 2017, et les autorisations de mandatement 2018 qui sont inscrits en face. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget ville sur l'exercice 2018 jusqu'à l'adoption du budget, dans la limite des dispositions définies par l'article suspensionné. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Donc c'est des délibérations qu'on prend couramment chaque année à la même période. Donc vous allez en avoir d'autres pour d'autres budgets. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 11 concerne, et maintenant toujours le pôle finance programmation, c'est le mandatement des dépenses d'investissement pour l'exercice 2018 sur le budget de l'eau. Donc on est Frédéric Goujat et on est dans le même type de délibération.
Je ne vais pas vous relire l'exposé, c'est le même. Donc vous prenez connaissance du tableau concernant les dépenses du budget de l'eau. Et je vous invite à autoriser Madame le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sur le budget eau sur l'exercice 2018 jusqu'à l'option du budget dans la limite des dispositions définies par l'article susmentionné. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 12 concerne toujours le pôle finance programmation et cette fois-ci on est sur le mandatement des dépenses d'investissement de l'exercice 2018 sur le budget assainissement. Frédéric Goujat.
Je vous invite à prendre également connaissance du tableau qui concerne les dernières dépenses sur l'exercice 2017. Donc, et je vous invite à autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget assainissement sur l'exercice 2018 jusqu'à l'adoption du budget dans la limite des dispositions définies par l'article susmentionné. Également autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la précédente délibération.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Pardon. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 13, c'est encore une délibération sur le pôle finance qui concerne cette fois-ci le mandatement des dépenses d'investissement pour l'exercice 2018 sur le budget parc de stationnement.
Frédéric Même exercice. Vous prenez connaissance des dernières autorisations de mandatement et vous êtes invité à autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget parc de stationnement sur l'exercice 2018 jusqu'à l'adoption du budget dans la limite des dispositions définies par l'article suspensionné. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 14 correspond toujours au pôle finance programmation et c'est le mandatement des dépenses d'investissement pour l'exercice 2018 pour le budget palais. Parce que vous savez qu'à partir du 1er janvier 2018, le palais va faire l'objet d'un budget annexe séparé. Frédéric Goujat.
Bon, enfin, dernier exercice, dernier tableau concernant ces autorisations de mandatement. Et vous êtes invité à autoriser Madame le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sur le budget le palais sur l'exercice 2018 jusqu'à adoption du budget dans la limite des dispositions définies par l'article suspensionné. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, l'unanimité. La délibération numéro 15 concerne le pôle finance programmation. Ce sont les indemnités de conseil du receveur principal. Frédéric Goujat.
Dans le cadre de ses missions de conseil et d'assistance, le receveur municipal est en droit de percevoir une indemnité de conseil. Il vous est donc proposé d'attribuer à M. Pierre Coudurier, receveur, le taux maximum de l'indemnité de conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 82 et du décret 82-979 du 19 novembre 1982. L'indemnité est calculée à partir de la moyenne des trois derniers exercices des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement en application d'un barème par tranche. Moyenne annuelle des dépenses nettes 88 848 421 euros. Donc je vous laisse, vous avez le tableau avec l'application du barème dessous avec les différentes tranches et prendre connaissance du résultat. Le montant d'indemnité brute au taux de 100% s'élève à 9 213 euros. Le montant de l'indemnité brute qu'il vous est proposé d'allouer receveur est de 9 213 euros, soit 100% du taux maximum. Prélèvements sociaux, CSG non déductible et CRDS 262,50 euros, CSG déductible 461,64 euros, 1% 92,13 euros. L'indemnité nette s'élève à 8 380 euros et 73 centimes. Le conseil municipal est invité à attribuer l'indemnité de conseil à monsieur le receveur municipal de Saint-Lange pour l'année 2017 au taux de 100%, soit 8 396 euros et 73 centimes. autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires au suivi de ce dossier.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 16, c'est le pôle développement et aménagement durable, projet hôtelier à la CRI, convention d'aménagement touristique, Patrick Philippe.
Après une enquête publique qui s'était déroulée du 3 septembre au 3 octobre 2012, le conseil municipal de la commune avait prononcé par une déclaration de projet l'intérêt général de la construction d'un équipement hôtelier sur le site de l'ancienne ZAC de la CRI en vue de favoriser le développement du tourisme à Megève. Il avait décidé de mettre en compatibilité le plan d'aménagement de zone de cette ancienne ZAC avec la déclaration de projet. C'est la délibération numéro 2012-260-DEL du 19 novembre 2012. La SNC, SFHM et compagnie avaient déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un hôtel de 6 499,45 m² de surface de plancher sur un terrain assis à Megève, principalement au lieu dit Lacry, cadastré à la section C sous les numéros 4084, 4085, 4087 et 4090. Ce projet rentrait dans l'orientation du plan d'aménagement de zone du secteur en faveur du développement et de l'agrandissement des hôtels tout en assurant une pérennité d'affectation. Le Code du tourisme prévoit que toute opération d'aménagement touristique doit faire l'objet d'une convention entre la commune et l'opérateur concerné afin de préserver le caractère d'intérêt général de telles opérations et pour assurer une meilleure protection de l'environnement. En 2012, la commune et la SNC, SFHM et compagnie s'étaient rapprochés afin de définir l'objet et les conditions de la convention d'aménagement touristique qui permettait d'encadrer le projet hôtelier. Par délibération numéro 2012-286-DEL en date du 17 décembre 2012, le conseil municipal avait autorisé la signature de la convention reprenant les points suivants. L'objet de la convention était de définir les conditions dans lesquelles serait réalisé sur le terrain susmentionné un hôtel de 4 étoiles minimum composé de 55 chambres, dont 14 suites, d'un restaurant et d'un spa répartis dans 4 bâtiments reliés et intégrés dans la pente naturelle du terrain. L'établissement hôtelier devait être mis en exploitation en fin d'année 2016. Le 29 juin 2012, la SNC, SFHM et compagnie, au droit de laquelle a succédé la SASFHM, puis la SASU, Mont-d'Arbois Luxury Resort, avait déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un hôtel de 6 499,45 m² de surface de plancher. Ce projet rentre dans l'orientation du plan d'aménagement de zone, alors opposable du secteur en faveur du développement et de l'agrandissement des hôtels, tout en assurant une pérennité d'affectation. La recomposition des surfaces a donné lieu à une modification portant à 8352 la surface de plancher totale du projet, pour les volumes globalement inchangés, donc une diminution de l'emprise compensée par la liaison en rez-de-chaussée des chalets 2 et 3. Ces modifications ont été formalisées par le dépôt de permis de construire modificatif. Compte tenu des modifications du projet, notamment sur les surfaces de plancher et du retard dans l'ouverture de l'hôtel qui sera effective en décembre 2017, les parties se sont rapprochées pour actualiser le projet de convention et d'aménagement touristique. Comme dans la convention initialement prévue, les locaux seront exclusivement affectés aux destinations énoncées et seront conformes dès leur ouverture aux définitions et normes de classement 4 étoiles minimum en vigueur à la date d'obtention du permis de construire. En cas d'irrespect de la convention, de changement d'affectation ou de perte de classement, des sanctions sont prévues par les articles 4 et 9 de la convention. La convention prendra effet à compter de la date de la signature et s'achèvera 20 ans après la date d'ouverture de l'hôtel. À l'issue des négociations, le pétitionnaire s'est engagé, en sus des obligations précédemment négociées, à maintenir l'hôtel et le restaurant ouverts 6 mois dans l'année. L'indemnité compensatrice qui serait versée à la commune en cas de changement définitif de destination de toute ou partie d'un immeuble où la perte du classement a été portée à 5 500 € par mètre carré de surface de plancher. Le calcul de l'indemnité tiendra compte de la durée de la convention restant à courir. Compte tenu des modifications apportées, le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de convention d'aménagement touristique modifié. Le projet de convention est en annexe à cette délibération. le conseil municipal, donc je vous propose d'approuver le projet de convention d'aménagement touristique annexé à la présente délibération. Autoriser Madame le maire à signer la dite convention d'aménagement touristique et tout document afférent à l'exécution de la convention. Autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette convention. Peut-être rappeler que cette convention a déjà été signée par la partie, par l'autre partie. Et moi, je voulais justement en profiter, de cette délibération pour remercier Madame le maire et féliciter sa pugnacité dans ce dossier, parce que je crois qu'aujourd'hui, elle a été remise à jour grâce à ce long travail de discussion, de négociation qu'elle a mené avec les parties signataires de cette convention.
Oui, donc ces conventions d'aménagement touristique, elles sont régies aujourd'hui par le Code du tourisme, et ça, ceci, c'est dans le cadre de la loi Montagne de 1985. Et donc, elle régit une partie qui nous garantit la collectivité d'une garantie d'exploitation en cas de non-respect aujourd'hui des périodes qui sont prévues en période d'ouverture, et puis qui nous garantit aussi du maintien de l'affectation hôtel pendant 20 ans. Oui.
Oui, Sylviane Grosset, je voudrais m'associer aux félicitations de Patrick Philippe dans ce dossier. On ne peut que se réjouir, effectivement, d'avoir que des investisseurs aient réalisé l'hôtel qui va ouvrir très prochainement. Et je dois vous dire que la négociation que vous avez menée va totalement dans le sens à la fois du développement touristique de Megève, mais aussi dans la sauvegarde de ses intérêts. En tout cas, bravo et merci beaucoup.
Merci. Donc, des contre, des abstentions. Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 17, qui concerne le pôle sport et une convention pour l'entretien du terrain de football et de ses abords. Autorisation de signer, Christophe Bougot.
La commune de Megève est propriétaire du terrain de football des Verrières, faisant partie de son domaine public. Elle doit en cette qualité assurer son entretien. En l'occurrence, le club des sports, section football, premier utilisateur historique, a proposé d'offrir gracieusement son concours à la collectivité afin d'entretenir le site. Compte tenu de cette contribution effective au service public, il a été décidé de conclure une convention afin de formaliser l'intervention de l'association. Il est précisé que le club des sports propose son activité à titre gratuit. Il mettra à disposition ses bénévoles. La convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant sa date d'anniversaire. En annexe, vous avez la convention pour l'entretien du terrain de football et de ses abords. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention pour l'entretien du terrain de football et de ses abords, telle qu'annexée à la présente délibération, et autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à l'exécution de cet avenant. Alors, dans ce qu'on entend par entretien du terrain, c'est les abords et puis les petits entretiens. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Puis c'est aller enlever les feuilles ou les végétaux qui se déposent sur le terrain. Évidemment, tout ce qui est renouvellement de la surface, ça c'est fait par des entreprises spécialisées. De toute façon, il n'y a pas les moyens matériels au sein du club des sports pour le faire.
Cela dit, le club de foot entretenait aussi la partie gazon artificielle avec le passage et le balai en permanence, quoi. Je crois que c'est important pour avoir toujours la...
Oui, mais aujourd'hui, comme on a rénové notre terrain de foot, on a aussi pris un contrat de maintenance pour assurer justement les garanties du terrain.
Ce qui veut dire qu'ils n'interviendront plus sur la pelouse de même du terrain.
Au moins pendant la durée des garanties du terrain, la nouvelle pelouse.
Des questions encore? Des contre? Des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 18, pôle sport, convention pour l'utilisation des locaux sportifs, dojo et gymnase, association Kitaïdo, Alpes, autorisation de signer, Christophe Bougot.
La commune de Megève est propriétaire du dojo situé au parking de l'office du tourisme et du gymnase situé dans le palais des sports. La commune souhaite optimiser l'occupation des équipements dont elle est gestionnaire et favoriser le développement des activités pédagogiques et sportives encadrées par des professionnels. L'association Kitaïdo Alpes assure l'enseignement et la pratique des arts martiaux. Dans ce cadre, elle a la pleine responsabilité et la pleine maîtrise des enseignements et des actions conduites durant leurs séances. La commune a noté que l'association tient compte de la réglementation relative à la pratique des arts martiaux, notamment les dispositions relevant de la sécurité et des responsabilités incombant aux pratiquants. La commune et l'association se sont rapprochées pour conclure une convention visant à formaliser la mise à disposition des locaux sportifs à cette dernière. La convention est consentie pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une période maximale de 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties adressée 3 mois avant l'expiration de la période contractuelle par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Cette mise à disposition est réalisée à titre gracieux. La planification des activités est établie par les responsables des installations sportives en concertation avec la personne désignée comme contact. En annexe, vous avez la convention pour l'utilisation des locaux sportifs, du dojo et du gymnase, qui est en projet. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention pour l'utilisation des locaux sportifs, dojo et gymnase, telle qu'annexée à la présente délibération, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à l'exécution de cet avenant.
Et moi, je voudrais juste apporter une précision, c'est que ces locaux étaient entièrement rénovés par nos services et je tiens tout particulièrement à remercier le service Paul Bâti de la ville de Megève qui a fait un travail extraordinaire dans ces locaux et qui ont vraiment redonné un peu de vie à cet espace.
Ah, il y a eu beaucoup de demandes évidemment des associations et dont M. Orsec était venu me solliciter à plusieurs reprises. Donc voilà, ça a été fait et vraiment une réelle amélioration. Et il y aura un meilleur respect des locaux, parce que c'était un petit peu délabré, et puis il y avait des dégradations volontaires, on va dire.
Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'accès, il est réservé, on contrôle avec les transpondeurs, et seules quelques personnes habilitées ont l'accès à cette salle.
Et lorsque l'on a fait l'inauguration des travaux de l'espace, bien le dojo s'est donc appelé dojo Gilbert Orsay, reconnaissance du dévouement au sein de la section par Gilbert Orsay. Des contre, des abstentions, délibération adoptée d'unanimité. La délibération 19 concerne le pôle enfance-éducation, le forfait communal 2016-2017 et pour l'exercice 2018, Marika Buchet.
La commune de Megève a la volonté de remplir ses obligations à l'égard des écoles privées sous contrat en versant un forfait par élève conformément au texte susmentionné. L'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose, en application de l'article L442-5 du Code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'école publique. Autrement dit, les communes sont tenues de participer à montant égal pour les écoles publiques et privées. En application de la circulaire 2012-025 du 15 février 2012, la commune de Megève a signé avec l'OGEC une convention de forfait communal qui détaille les modalités de calcul de la participation communale pour les 3 années scolaires allant de septembre 2015 à août 2018 concernant les participations communales 2017, 2018 et 2019. Les dépenses prises en compte pour calculer ces coûts sont celles de l'année scolaire, allant du 1er septembre au 31 août de chaque année. Le montant du forfait communal obligatoire à verser par la commune de Megève est égal, pour les classes de maternelle, au coût de revient réel de l'élève en maternelle du public, multiplié par le nombre d'élèves résidents à Megève uniquement, et le même processus de calcul pour les écoles, les classes élémentaires. En 2015-2016, soit forfait communal 2017, le coût de revient réel pour les écoles publiques d'un élève de classe de maternelle était de 1 476,13 € et celui d'un élève de classe élémentaire s'élevait à 528,27 €. Pour l'année scolaire 2016-2017, le coût de revient réel dans les écoles publiques d'un élève de maternelle est de 1 800,60 € et celui d'un élève élémentaire à 592,09 €. Pour rappel, le forfait communal était de 120 151,99 euros en 2013, 118 364,05 euros en 2014, 107 160,97 euros en 2015 et à 95 885,64 euros en 2016. Le forfait communal 2018 s'élève à la somme totale de 118 182,35 euros. 60% de ce montant sera versé en avril 2018 et le solde sera versé en juillet 2018 sous réserve de l'obtention par MEGEV des documents de l'OGEC visés par la convention 2015-2018. En annexe, vous trouverez le tableau pour le calcul des dépenses de l'école publique et les dépenses intégrées et résultats du calcul pour le forfait communal 2018. Le conseil municipal est invité à approuver le montant du forfait communal 2018 à verser à l'OGEC et l'inscription au budget primitif 2017 des crédits nécessaires à son versement. Dire que le forfait communal ne sera versé qu'après communication par l'OGEC des éléments prévus à l'article 6 de la convention. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les formalités nécessaires à l'application des présentes délibérations. Ce qu'on peut dire, c'est que simplement, on a des variations de nos forfaits communaux qui peuvent être liées, selon les années, soit aux dépenses de fonctionnement, essentiellement l'énergie. Pour cette année, le forfait communal a plutôt été vraiment impacté par une perte du nombre d'élèves aux écoles publiques, mais qu'on a pu également relever aux écoles privées.
Madame le maire, je vous informe que je ne prendrai pas part au vote.
Question.
Oui, le commentaire qui a été apporté est effectivement, hélas, un peu inquiétant, quoi, parce que on est toujours sur une diminution du nombre d'enfants de MEGEV qui fréquentent les écoles. Non, mais ça remonte, oui. Enfin, mais là, donc les chiffres qu'ils nous ont donnés, l'OGEC augmente de 11 maternelles en 2016-2017 et perd 15 élémentaires. Mais je rappelle que ce forfait n'est versé que pour les enfants de MEGEV.
Hein,
donc
de
là, il y a pas la distinction dans les effectifs. Oui, peut-être. Voilà. Non, mais moi, je parle. Peut-être y a-t-il une augmentation de fréquentation qui repart, mais je voudrais savoir s'il s'agit bien d'enfants de MEGEV. C'est ça ma question.
Enfants de MEGEV.
Voilà. Est-ce qu'on a enfin les chiffres du recensement?
Non, toujours pas. Alors, pour apporter une petite précision par rapport à... Il y a eu une commission Petite Enfance pour attribuer les places de crèche cette année. Là, le mois dernier, pardon. Et donc, paradoxalement, j'espère que c'est peut-être un bon signe pour nos classes futures dans nos écoles, c'est que d'habitude, quand une maman envisageait de mettre son enfant à la crèche, elle réservait sa place de crèche au moment où elle avait, une fois que le bébé était arrivé. Sauf que maintenant, on est un petit peu passé dans le système de la ville et qu'il faut anticiper. Il faut anticiper pour réserver sa classe à la crèche et donc ne pas attendre que le bébé soit là, mais bien en amont. Donc, est-ce que c'est le signe d'un prémisse d'une population qui va être plus importante? Donc, gardons un peu un air positif. Donc, on espère que ces répercussions d'enfants nombreux à la crèche vont se faire dans les établissements scolaires dans quelques années. Donc, des contre, des abstentions. Donc, il y a une abstention. Christophe Goudot ne prend pas part au vote. Et donc, le reste du conseil adopte cette délibération. La délibération numéro 20 concerne le pôle famille, enfance et éducation, le service enfance, multi-accueil saisonnier, le règlement de fonctionnement.
Le multi-accueil saisonnier Les Frimousses accueillons 14 enfants âgés de 1 an à 3 ans situés au 2935 route Edmond de Rothschild au Mont-d'Arbois à MEGEV cesse son activité à cette adresse. Afin de proposer malgré tout quelques places pour la saison d'hiver prochaine, il convient de modifier certains éléments du règlement de fonctionnement ainsi que le guide pratique puisque les enfants seront accueillis à la grande crèche. Cette structure est gérée par le service enfance du pôle famille enfance éducation, Le règlement a pour but de fixer les conditions d'accueil et les conditions de réservation des séjours. Et en annexe, vous avez donc le règlement et le guide pratique. En effet, cet hiver, il n'y aura pas l'accueil pour les enfants de 1 an à 3 ans au Mont d'Arbois, du fait que l'hiver 2018-2019, il y aura une crèche qui sera été-hiver à la place du local poterie. Du local poterie qu'il y avait à côté de la grande crèche.
Enfin, Sylviane Gorset, moi je considère que c'est vraiment un recul parce que la possibilité de faire garder ses enfants pour notre clientèle et surtout de pouvoir faire garder là aussi deux tranches de, on va dire, deux tranches d'âge était quand même un service qui apportait un certain intérêt. Enfin, moi je considère que c'est vraiment un recul de couper, j'allais dire, d'avoir les parents qui sont au ski sur les hauteurs et les enfants qu'il faut aller chercher et rapporter.
Je le conçois tout à fait, mais la seule chose, c'est que les parents qui étaient sur Roche-Brune, au Jaillet ou à la Princesse l'hiver, ils avaient du mal à bénéficier de ce service, et notamment ceux qui mettaient leurs enfants à l'école de ski, à la Caboche, à Roche-Brune et autres. C'était absolument pas centralisé.
Non, mais je veux bien comprendre que c'était beaucoup mieux au Mont d'Arbois qu'ailleurs. Mais c'est pas une raison pour supprimer le Mont d'Arbois alors que, parce que c'est mieux qu'ailleurs.
C'est pas que c'est mieux qu'ailleurs, c'est juste une décision qu'on a prise aussi, hein, que j'ai prise aussi en tout effet de cause. Et puis il y avait une demande cruelle aussi pour cette range-là qui était l'été où il y avait pas de garde pour l'été.
Ouais, ça n'empêchait pas de justement peut-être de voir comment on pouvait apporter ce service aux autres, j'allais dire, aux autres secteurs, puisqu'on parle aussi bien de demi-quartier à la Princesse qu'à Roche-Brune ou au Jaillet. Enfin voilà, simplement pour moi c'est un recul.
Mais tout est une histoire de finances aussi, le problème est là.
Voilà.
Et de locaux. Et on a cherché, on a creusé, mais c'est très compliqué. Il y a et les locaux, l'emplacement qui n'existe pas, et problème de finances. Juste pour la petite information, si on peut l'annoncer, oui. Une unité de 20 places, c'est 800 000 euros. Donc après, là, il y a des choix qui s'imposent un petit peu à nous.
Le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu, est invité à confirmer et appliquer les nouvelles dispositions à côté de ce jour, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout acte et contrat et accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Donc, la délibération est adoptée avec une abstention. La délibération 21 concerne le pôle ressources humaines, emploi et compétences. Stage professionnel étudiant, attribution d'une gratification, Jocelyne Co.
Dans le cadre de la convention de stage à établir avec l'Institut de formation au métier de l'eau, M. Franck Leher sera accueilli au sein du pôle sport pour effectuer un stage de formation professionnelle dans le cadre de ses études pour une durée de 400 heures à partir du 6 novembre 2017 au 27 janvier 2019, les dates pouvant être modifiées. Considérant la durée du stage, il est proposé de lui octroyer une gratification dont le montant reste à déterminer. Proposition, vous êtes invité à décider d'attribuer à M. Franck Leher une gratification d'un montant de 3,60 € brut par heure réellement effectuée pour sa période de stage du 6 novembre 2017 au 27 janvier 2019, sous réserve de la modification du plafond horaire de la Sécurité sociale en 2018. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités correspondantes et indiquer que les crédits seront imputés sur le chapitre 12.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 22 concerne toujours le pôle ressources humaines, emploi et compétences, le tableau des emplois permanents, Jocelyne Co.
Il est rappelé que les effectifs nécessaires au fonctionnement des services communaux font l'objet d'un état annexé au budget primitif voté par le conseil municipal, tableau régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des besoins recensés, ainsi que des transformations résultant d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite à des concours, de nomination en qualité de stagiaire, ainsi que de tout recrutement en vue de pourvoir toute vacance de poste permanent. Vous êtes invité à modifier le poste de référent opérationnel chef de production au pôle fait restauration en référent opérationnel du secteur restauration scolaire et hébergement au 1er novembre 2017. Deuxièmement, modifié au 1er décembre 2017, suite à la réussite de l'examen professionnel de technicien principal première classe, le grade dans le poste de référent opérationnel maintenance et infrastructure au pôle CID, le grade de technicien principal deuxième classe en technicien principal première classe. Et je tenais par la même occasion à féliciter donc notre agent qui a réussi avec brio l'examen professionnel.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Je me permets de vous donner les dates des deux prochains conseils municipaux. Celui du mois de décembre qui se tiendra le 19 décembre et celui du mois de janvier qui se tiendra le 23 janvier. Voilà, merci pour votre présence et participation à ce conseil municipal et bonne soirée.